Ne faites pas l'innocent ou l'innocente, comme moi, comme tout le monde, vous chantez dans votre salle de bain. Et vous êtes sûr et certain que personne ne vous écoute, que vous ne chantez que pour vous. Quand vous chantez d'ailleurs, parce qu'il arrive que vous ne fassiez que siffler ou fredonner. Pour vous, il n'y a pas de voisin, pas de partenaire, pas de colocataire, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Dans le volume de La recherche du temps perdu que je préfère, qui s'appelle La prisonnière, il y a une page merveilleuse sur une diva de salle de bain. C'est Albertine, qui est celle que le narrateur aime à la folie, et qui se glisse dans son cabinet de toilette et qui ne se gêne pas pour faire un petit peu de bruit. On est coincé avec elle, on est forcé de l'épier, de l'écouter siffler ou chanter dans son bain. Et si l'on sourit de son mauvais goût, si on se plaint à demi-mot de ce qu'elle fredonne comme un oiseau, une vieille chanson populaire d'Albert Alvarez qui s'appelle Le Biniou, ou un air de Massenet un peu plus chic selon sa tante Madame Bontemps, on est quand même hypnotisé. Peut-être parce qu'Albertine a un certain talent pour le chant et qu'elle nourrit un rêve secrètement, ou peut-être tout simplement, c'est ce qu'écrit Proust, parce que ses airs de salle de bain ne sont pas innocents. Ici, ce sont des discours, des échanges, des dialogues amoureux contre lesquels on râle volontiers, mais dont on ne peut pas se passer. Et vous, le matin, pendant que vous vous lavez et que personne ne vous entend, qu'est-ce que vous chantez ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Voilà belle lurette que mon invité d'aujourd'hui a quitté sa salle de bain et qu'elle a troquée pour les scènes du monde entier, sauf le matin évidemment. Elle est la révélation du chant lyrique de ces 10 dernières années, déjà auréolée de 4 victoires de la musique classique. Soprano, coloratour, elle pose sa voix sur des airs et des cantates, tantôt sacrés, tantôt profanes, de Bach et de Handel, réunis sur un disque qui sortira vendredi. Bonjour Sabine Devielle.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous chantez, tiens-vous, dans votre salle de bain ?
Mais plein de trucs. Alors, soit c'est une matinée de représentation, donc je révise, je travaille mes rôles. On a un très bon travail du par cœur quand on est dans sa salle de bain. Et puis, je chante des petites chansons pour moi, je chante doucement. Mais en tout cas, c'est un moment pour soi qui est toujours très privilégié. Et je pense que vous dites que tout le monde chante dans sa salle de bain, vous avez bien raison.
Et vous savez que vous en faites profiter les autres, hein, Sabine.
Oui, alors moi, la famille en général n'est jamais très très loin. Donc...
Et la reine de la nuit, est-ce qu'il vous arrive encore de la chanter sous votre douche?
Ouais, ça m'arrive. En vrai, c'est de la musique que j'adore. J'ai beaucoup de monde qui me demande « Alors, tu t'en es pas un peu lassé de ce rôle que t'as chanté quand même des dizaines et des dizaines des dizaines de fois ?» Eh ben non, en fait. Et puis c'est chaque fois différent. Quand je suis seule dans ma salle de bain, justement, j'ai pas la pression du public.
Parce que qu'est-ce qu'il représente, ce rôle, pour une soprano coloratour ?
Ben, un Everest, un peu. C'est un rôle que j'avais déjà dans mon cartable au conservatoire. J'avais la flûte enchantée, mais surtout ce fameux air des Höllerach, qui est un air de colère, dans lequel Mozart s'est régalé avec des fameux contre-fa qui sont un peu, ouais, un Everest, un truc un peu inatteignable. Et finalement, quand on l'atteint parce que ça fait partie de notre voix, les gens adorent, et du coup, nous aussi. Parce que ce qui est merveilleux, c'est de sentir la tension entre la scène et la salle. Et ça marche pour cet air, ça marche, on sent les gens suspendus.
Alors justement, on vous écoute le chanter, cet air, en 2015, sur l'album Mozart and the Weber Sisters. Les entends, ces fa dont vous nous parlez, Sabine Devielle. Comment fait-on pour chanter de manière singulière un des arias les plus connus de l'histoire du chant lyrique, un tube, pour en livrer une interprétation personnelle ?
Ouais, en fait, je pense que c'est un joyeux mélange entre beaucoup de travail. Les cordes vocales, c'est vraiment minuscule. Et notre travail pour un peu toutes les tessitures, mais je pense particulièrement pour la tessiture de soprano coloratour, c'est d'enlever la pression qu'on pourrait mettre sur ces cordes vocales. Il faut que le corps soit ultra engagé. Et puis, c'est un travail d'orfèvre. Il faut travailler chaque jour pour connaître son instrument au maximum, sur toute la tessiture, sur tout l'ambitus, on appelle ça l'ambitus, la note la plus grave jusqu'à la note la plus aiguë. Et souvent, pour la Reine de la Nuit, moi, quand j'ai commencé à la chanter, ce qui me posait plus problème, c'était finalement pas les suraigus, puisqu'ils sont dans ma voix et vous pouvez pas chanter la Reine de la Nuit, Augustin, je suis
désolée. Pourtant, j'essaye, on va pas se mentir.
C'est-à-dire, c'est des notes qu'on a ou qu'on n'a pas. Après, on peut les perfectionner, on peut les rendre un peu plus, un peu plus joyeuses ou colériques. Mais en tout cas, c'est des notes qu'on a. Le truc qui me posait problème au début, c'était surtout tout le reste du rôle, tout le reste, c'est-à-dire les médiums et puis la colère de cette mère.
Mais à quoi tient une bonne interprétation, somme toute ?
Eh bien, une bonne interprétation, c'est de réussir justement à avoir assez travaillé à la maison pour pouvoir basculer quand on est sur scène. Parce que c'est un air de rage, et c'est pas si souvent que les sopranos coloratours ont de la rage à interpréter. Souvent, on est des jeunes filles en fleurs, ce que je suis de moins en moins d'ailleurs. Non mais c'est vrai, souvent...
Naufrage,
voilà,
du vieillage.
Mais en fait, doucement mais sûrement, je deviens de plus en plus professionnelle, et doucement mais sûrement, je m'éloigne de l'âge des personnages que j'incarne, mais j'adore ça, parce que la fraîcheur de ma voix, elle ne vient pas de mon jeune âge, elle vient de mon travail.
Alors justement, quand vous abordez un rôle, une partition, par quoi vous commencez ?
Par travailler le texte. Là, par exemple, c'est merveilleux de voir Schikaneder et Mozart sur ce livret de La Flûte Enchantée. Schikaneder qui jouait lui-même le rôle de Papageno à la création de La Flûte Enchantée. Donc, autant vous dire qu'il y a mis tout son cœur. Et ce personnage de la reine-mère, on peut dire, c'est un personnage vicieux, plein de pouvoir. Et donc, je pars du texte. Et de ce texte, je comprends quelle couche Mozart a voulu ajouter. Et enfin, j'y ajoute ma touche personnelle.
Il y a le texte et puis il y a la langue, Sabine Devielle. En quoi est-ce qu'elle est primordiale, cette question de la langue, quand on chante ?
Alors, c'est primordial parce que je pense que le formant des voyelles, c'est-à-dire les couleurs de chacune des voyelles dans une langue, a influencé de façon intrinsèque la composition de la musique. C'est-à-dire que nous, en français, par exemple, on a une prononciation un peu à l'avant, on a beaucoup de nasales, on les connaît, les nasales, chez les Français. Et la musique française est teintée de ces sonorités-là. Donc, pour bien avoir le flow de chacune des langues, il faut savoir un peu la parler, quoi.
Ça veut dire que la langue a une incidence sur la manière dont vous faites vibrer, dont on fait vibrer nos cordes vocales. En quoi on chante jamais de la même façon quand on chante en allemand, en italien ou en français, par exemple ?
Ouais, l'italien, vous le voyez, Emma, on a l'accent tonique, on est là, et c'est une langue qui est vraiment sur le soutien.
Sabine.
Mais vous voyez, on a ça, on commande la pizza, on est déjà sur un flow qui est pas du tout le même que celui qui est un peu rythmique que le français. Bah, tout ça, c'est déjà en nous quand on aborde un rôle et une partition.
D'ailleurs, c'est assez intéressant, quand on pense à la tessiture de soprano coloratour, on pense assez rapidement à un répertoire français, à un rôle comme celui de Lakmé. Par exemple.
Lakmé. Ouais, Lakmé, c'est ma chouchoute et c'est vrai que c'est un rôle emblématique de cette tessiture qui est directement lié à cette image qu'on a des jeunes filles qui se découvrent sur la scène. Bon, en plus, c'est un rôle merveilleux parce que j'ai l'occasion de mourir sur scène. Voilà. Alors, Lakmé, c'est un rôle qui m'a beaucoup apporté, ouais.
Pourquoi c'est bien de mourir sur scène ?
Bah, c'est formidable. Je vous parlais du rapport pendant ce deuxième heure de la Reine de la Nuit qu'on a avec le public. Lakmé, c'est encore plus fort puisqu'on a deux heures de musique où on est quasiment tout le temps sur scène. Et c'est vraiment une vraie poignée de main qu'on fait avec le public. On les emporte jusqu'à la fin, jusqu'au tombé de rideau. Et c'est formidable.
C'est un des premiers rôles que vous ayez interprété, Sabine Devielle, un an après être sortie du conservatoire. Qu'est-ce qui en fait la richesse, autant sur le plan du personnage que sur le plan technique, en l'occurrence.
Ouais, alors évidemment, il y a un grand enjeu technique dans Lakmé parce que c'est une jeune fille qui a beaucoup à raconter, donc elle parle beaucoup, donc il y a beaucoup de musique à chanter concrètement, pas toujours haute perchée d'ailleurs, donc on a besoin de maîtriser, juste où je vous parlais du travail du corps, on a besoin de maîtriser l'endurance sur un très long rôle comme celui-là. Et puis le personnage est génial parce que c'est une jeune nana qui connaît rien, qui a vécu voilée toute sa vie, recluse par son père, Nila Canta. Et puis, en deux heures de temps, elle passe de connaissance zéro du monde à une Liebestod. Elle finit par mourir d'amour. Elle se donne complètement.
Il faut de la faire entendre. Un peu.
Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? Alors, l'Acmé, elle a ce moment de grande tension, qui est un moment où son père l'a contraint de chanter pour servir d'appât, pour que lui puisse tuer son prétendant anglais. Son père est contre cette union, et donc il fait chanter sa fille pour que son jeune mec anglais vienne la rejoindre.
C'est une belle mise en abîme de boomerang, on y va.
Allez, on y va.
Ah d'accord, ok, donc là les choses sont dites, 9h17 sur France Inter. Celle qui ne produit pas le même enthousiasme chez moi, et vous le savez, c'est rien de le dire Sabine, c'est la culture qui chante avec ses pieds. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 27 octobre?
La littérature, personne ne sait ce que c'est. Quand quelqu'un parle de cet endroit-là, il n'arrive pas toujours à se maîtriser. Et ça continuera, et tant pis, ou tant mieux.
On n'arrête plus Christine Angot, qui a reçu hier le prix Médicis pour son roman Voyage dans l'Est, paru chez Flammarion, un texte qui revient, comme certains de ses ouvrages précédents, sur l'inceste dont elle a été victime dans sa jeunesse, récompensé en même temps que Jonas Hassan-Kemiri, côté étranger, et Jakuta Alikavazovic pour les essais. L'autrice a été retenue dans la même journée parmi les quatre finalistes du Goncourt. Elle pourrait donc signer le 3 novembre prochain un doublé gagnant, Médicis Goncourt, à l'instar d'André Makine en 1995. Go Angot! Comeback. Le groupe Metronomy s'apprête à faire son grand retour aujourd'hui partout dans le monde avec la livraison d'un morceau inédit judicieusement titré It's Good to Be Back. La formation de Joseph Mount mettra en ligne ce soir à 20h tapante le clip de la chanson, porté par une ambiance champêtre, des tournesols pimpants, une joie de vivre retrouvée. Un premier single qui annonce la sortie prochaine de Small World, le nouvel album du groupe attendu pour février. Olé!
Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume-là?
Tous en scène, le musée du Louvre propose dès aujourd'hui de découvrir En scène, une exposition originale consacrée au dessin des costumes de fête portés dans les bals, les ballets, les mascarades et les tragédies données à la cour de France et de Lorraine du 16e au 18e siècle. Masques, plumes, corsets, entre extravagance et savoir-faire, l'événement expose une centaine de dessins sur feuilles et propose une épopée exaltante dans les coulisses du show business de l'ancien régime, c'est sublime.
Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch.
Et enfin, mercredi de congé, tous au ciné. Aujourd'hui dans les salles, on s'invite dans une France d'Épinal, façon Wes Anderson, dans The French Dispatch. Le fantaisiste cinéaste met en scène la rédaction d'une revue aux faux airs de New Yorker, pilotée par des Américains depuis une petite ville française. Tournée à Angoulême, portée par une distribution d'étoiles, notamment Bill Murray, qui était notre invité vendredi dernier. Le film se déploie comme un vrai monde de cinéma, chorégraphié à l'extrême, maîtrisé jusqu'au vertige. C'est bon. Et la soprano coloratour, Sabine Devielle, invitée de Boomerang ce matin pour parler de musique, d'interprétation, de voix. Quel instrument est-ce que c'est la voix, justement, pour vous, qui par ailleurs être violoncelliste, je crois?
Oui, je suis violoncelliste. À l'origine, j'ai commencé la musique par le violoncelle, mais je pense que finalement, j'ai toujours chanté. Et pour revenir à cette histoire de salle de bain, la musique, c'est finalement une partie de notre identité. Enfin, la voix chantée, c'est une partie de notre identité. Et la voix parlée aussi, notamment quand je suis en pleine prise de rôle pour aller sur scène, je sais que j'ai besoin de faire attention à la façon dont je parle aussi, parce que ma voix parlée a un impact sur ma voix chantée.
Passionnant. Comment fonctionne en fait cet instrument qu'est la voix? Cet instrument dont on ne voit pas le mécanisme, ce qui le rend si beau et si mystérieux aussi.
Oui, alors on a besoin de souffle. On est un instrument, on est une soufflerie, nous tous. Et finalement, notre cerveau commande à nos cordes vocales de s'accoler au moment où l'air s'échappe de nos poumons. Et par cet accolement, et grâce à tout ce qu'on peut former dans la bouche et grâce au résonateur, on peut avoir une voix à parler, un langage intelligible et puis une émission de son plus ou moins haut.
Et alors, elles sont toutes uniques, nos cordes vocales. Les vôtres, elles ressemblent à quoi?
Mais alors, je les connais bien, parce que figurez-vous que nous, les chanteurs, on a des petits contrôles techniques à effectuer assez régulièrement.
C'est joli, le contrôle technique, pour en parler.
Bah ouais, mais c'est vraiment ça. En fait, on n'ouvre pas la machine, mais c'est un peu ça. Avec une petite caméra, on va checker que tout va bien. Et je vous assure que c'est un grand soulagement, une grande joie de savoir que notre instrument est fiable et que nos sensations sont fiables, ouais.
Parce qu'elles sont fragiles.
Ouais, en fait. C'est minuscule, c'est tout petit. Alors nous, on est censé avoir des cordes vocales blanches, plutôt nacrées. Et puis voilà, encore une fois, c'est l'impact minime sur les cordes vocales, il arrive quand on a un corps bien entraîné.
Dans quelle mesure, d'ailleurs, diriez-vous, Sabine Devielle, que la fragilité, c'est ce qui constitue l'essence même de votre métier?
Ouais, ben surtout, c'est ce qui nous a tellement manqué pendant cette grande crise sanitaire. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup travailler quand même. J'ai fait pas mal de captations, de streaming. J'ai fait alors des enregistrements de disques, notamment ce Back Endel, mais ça, c'était un projet de très longue date. Mais j'ai fait beaucoup de projets qui ont finalement été dénaturés et qui ont perdu ce rapport au public et qui nous ont finalement coupé un peu du spectacle vivant. Cette fragilité, c'est celle pour laquelle les gens achètent des billets. C'est de savoir si ça passe ou ça casse. C'est ça qui est formidable. Nous, on a des shows, on a beau répéter pendant 6 semaines dans un studio, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
C'est à quelle la possibilité du tragique, toujours.
Mais ouais, il peut se passer, il peut tout se passer. Puis surtout quand on travaille sur les cimes de la tessiture, comme par exemple une soprano coloratour, les gens attendent de savoir si le suraigu va être...
Pensez bien qu'on attend tous le fa.
Bah ouais, bah voilà, le putain de fa. Mais n'empêche que quand
c'est ce
on
que vous
y
vous
arrive...
dites quand vous le chantez.
Non, en vrai, je les aime, ces fa. Et je pense que c'est intenable la pression pour une personne qui n'aime pas les fa, donc heureusement que je les aime, non.
qu'on se le dise. Mais il vous est arrivé d'avoir l'impression que votre voix, que votre instrument ne vous obéissait plus, qu'il fallait le reconquérir?
Ouais, bien sûr. Bah, on a vraiment une vie que les gens ne connaissent pas quand ils viennent nous voir au concert, qui est une vie de travail. Et oui, on est plein de doutes, on est pétri de doutes, mais le doute, c'est merveilleux. Le doute, c'est ce qui amène à la spiritualité. Le doute, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne envie de recommencer.
Et parce qu'elle change tout le temps, cette voix. Quand est-ce que vous l'avez vue changer, Sabine Devielle?
Alors, la mienne change doucement, mais sûrement. Il n'y a pas eu de grande révolution. Notamment, j'ai eu 2 enfants assez récemment. Et ça n'a pas été un grand saut dans l'inconnu, heureusement, parce que je pense que ça aurait été un peu flippant. Mais non, c'est des petits changements au quotidien. Et surtout, il faut pouvoir se faire confiance et se dire que en se mettant au travail, on peut retrouver notre instrument.
Et comment on rééduque sa voix?
Alors, le travail de la voix, si je peux donner un conseil...
On est tout oui.
Allez, c'est d'abord un travail, je vous disais physique, je pense qu'il faut, il faut travailler d'abord le souffle. Le souffle, c'est la base de tout. Et ensuite, il faut savoir placer son instrument et comprendre cet équilibre instable qu'on appelle le soutien, nous, qui est cette façon dont on contrôle la sortie du souffle de notre corps. Donc, il faut résister finalement sur cette expiration.
Précisément, par quels exercices commence votre échauffement quotidien? Il faut nous montrer, je vais rassurer les auditeurs et les auditrices de Boomerang, je vais pas y aller. Moi, je me suis cassé la voix plusieurs fois à essayer de jouer ce jeu, notamment avec Stacy Kent et sa paille la semaine dernière. J'ai pas le temps, Sabine. Mais vous, en revanche.
Alors oui, j'entends parler d'une paille. Oui, ça peut être une bonne idée. Alors, au début, on essaye de ne pas trop mettre en vibration les cordes vocales. Donc, ça peut commencer par des...
classique.
Un truc classique. Ensuite, on essaye d'avoir un peu plus de soutien. On passe du brr au v. Pas mal celui-là, ouais, aussi.
Il est pas mal, on dirait un
voilà.
instrument.
On peut monter un petit peu plus dans la tessiture. Et puis ensuite, on essaye de travailler sur le réflexe du diaphragme. Alors, pour le réflexe du diaphragme, on peut faire un petit peu des trucs comme ça. C'est-à-dire, tout en légèreté, on travaille sur la souplesse de l'instrument. Essayez à la maison, vous allez
voir. Alors, non, mais en revanche, ce sont des sons très surprenants. Dans quelle mesure direz-vous que plus le son produit est étrange et plus l'exercice est efficace,
oui.
Sabine?
Oui, ouais, c'est clair. Mais je vous dis, c'est la cuisine interne. Quand on arrive sur scène et qu'on fait des sons beaux et harmonieux, vous n'imaginez pas tout ce qu'on a entendu dans notre loge avant d'y arriver. Ouais, avec la paille, on fait des trucs, on a la tête en bas.
Des trucs dégueulasses.
des trucs vraiment crado, mais c'est ça qui est super et c'est aussi ce qui nous permet de pas forcément idéaliser seulement la perfection du geste vocal. On est vraiment dans les mains dans le cambouis et on est comme un potier qui est en train de faire son truc et qui a une masse informe au début et on a beaucoup à faire pour donner cet objet final.
Se peut-il que le violoncelle vous ait appris à chanter ?
Oui, alors le violoncelle m'a appris la rigueur déjà parce que c'est un peu ingrat les instruments quand on commence. Moi j'avais une voix assez naturelle donc chanter c'était déjà assez joli, mais le violoncelle m'a appris que pour travailler un trait par exemple, ce qu'on appelle un trait c'est une sorte de partie un peu rapide, bah, il faut faire, refaire, déconstruire,
par
changer
exemple,
le rythme.
Un trait qu'on comprenne.
Alors le trait du violoncelle par exemple, une gamme, et ben par exemple pour le travailler au début on peut faire badam, 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 badam. On change le rythme, on déconstruit, on met les mains dans le cambouis. Ouais. Et ben le chant c'est pareil. En France on a un grand amour pour les voix naturelles, ce qui me fait très plaisir parce que c'est ce qui m'a porté très très haut très très vite. Sauf que je sais moi dans ma cuisine interne quand j'ai les mains dans le cambouis que finalement c'est beaucoup de travail et il faut avoir une rigueur pour jamais se faire mal.
Et puis aussi on dit Sabine Devielle que le violoncelle c'est l'instrument dont le son se rapproche le plus de celui de la voix humaine.
Ouais. Et puis le soutien de l'archet, la pression qu'on sent. Là, tout à l'heure, vous allez entendre Antoine Touche, mon ami violoncelliste, qui joue sur un violoncelle baroque avec des cordes en boyau.
Oh, ça va être bien, ça.
Ouais, ça devrait être pas mal. Et c'est vrai que, notamment sur les cordes en boyau, il y a un travail de quasiment d'équilibriste entre le poids de la mèche de l'archet sur les cordes qui doit être infiniment délicat pour pouvoir rendre le mieux possible la musique.
On parle de l'instrument, qu'est la voix humaine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez ? Par quelles sensations physiques est-ce que vous êtes traversé ?
Ben, j'avoue que maintenant, ce qui m'importe plus que l'émission, c'est finalement le retour des gens qui m'entendent. Alors, il y a le retour du public. Je vous avoue qu'une ovation, ça fait toujours plaisir, mais il y a aussi le retour de mes enfants. Je chante pas toujours à pleine balle quand je suis dans leur chambre le soir. Je chante doucement. Et ce retour, c'est celui qui nourrit mon envie. Et l'envie, c'est la base de tout.
Je propose qu'on se laisse traverser par votre voix, si vous le voulez bien, avec un aria extrait de la cantate de Bach, Mein Herz schwimmt in Blut, mon cœur baigne dans le sang, autrement dit mon vendredi soir, Sabine, sur votre disque qui paraîtra la semaine prochaine. Vous êtes sur France Inter avec Sabine Devielle, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Saint-Air, Boomerang, Augustin. Augustin Trapenard.
Faut-je vous dire, moi, elle est beaucoup moins reine de la nuit qu'Elsa, reine des neiges. Le cheveu blond magique, le doigt pouvoir de glace, le sourire alerte canicule, libéré des carcans dans son jean et pull noir ce matin, délivré des costumes de scène pour un lâcher de cheveux, la soprane. Coloratour, Sabine Devielle, invitée de Boomerang ce matin pour parler donc de voix, mais aussi du lien peut-être qui vous unit à la musique de Bach, notamment auquel vous rendez hommage sur votre nouveau disque. Bach, quand est-ce qu'il est entré dans votre vie?
Je pense que finalement, le programme de ce disque, Bach et Handel, c'est un peu la base de notre relation amoureuse avec Raphaël Pichon.
Ah, Raphaël est... qui dirige.
Raphaël dirige. Et je pense que Bach vient de lui. Et la partie plus théâtrale et plus vocale de Handel viendrait de moi. C'est un peu un disque sur notre rencontre.
Mais alors, quels sont vos premiers souvenirs de Handel?
Alors, les premiers souvenirs de Handel, j'ai fait cette production que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, j'étais enceinte de mon premier enfant en 2016 au Festival d'Aix-en-Provence du Trionfo del Tempo e del Disinganno. C'est une espèce de pièce improbable. C'est un oratorio, finalement. Donc, c'est un oratorio, ça veut dire que c'est une pièce sacrée qui n'était pas destinée à être mise en scène. Mais là, le merveilleux metteur en scène Christophe Warlikowski en a fait une lecture assez torturée. Les personnages sont pas Monsieur Truc, Madame Machin, ce sont des allégories. Moi, je jouais le rôle de la beauté, Bellezza.
Ah, comment elle chantait, la beauté?
La beauté, elle chante pas si beau que ça, justement. Elle était torturée. Warlikowski en avait fait une jeune fille dépressive au bord du suicide. Et cette élévation spirituelle qui pourrait faire un peu peur, finalement, c'était une porte de sortie vers sa détresse psychologique. Et ça m'a énormément apporté d'aborder Handel et de le désacraliser, justement, de cette façon.
Vous vous souvenez de tous les airs ?
Ouais, j'ai une espèce de banque de données, surtout pour l'opéra, donc pour le reste, c'est assez difficile d'avoir de la mémoire.
Quelques notes de la beauté pour qu'on voit, pour qu'on comprenne.
Tout le ciel, ministro eletto, non vedrai più nel mio petto.
Disons, moi j'aimerais bien être dépressif comme ça, Sabine.
Ah là, c'est la fin, c'est quand ça va un peu mieux.
On parlait de Bach, qu'est-ce qui fait pour vous le génie de Bach, dont vous dites parfois que lorsque vous le chantez, vous avez parfois l'impression d'atteindre le paradis?
Ouais, j'atteins le paradis, mais il se mérite, parce que Bach, c'est vraiment un compositeur qui compose de façon très instrumentale pour les voix. Donc, je suis, là, on entendait tout à l'heure avec Yasu au hautbois, je suis un hautbois, je peux devenir un violon, je peux devenir un... Et c'est assez difficile, c'est un travail de précision et d'orfèvrerie qu'on demande aux chanteurs. Et donc, ouais, c'est assez difficile.
Et cette façon, vous le dites, Sabine Devielle, d'apporter de la lumière à l'obscurité, par quoi ça passe dans la musique de Bach, d'un point de vue harmonique, mélodique, rythmique? Sur la partition, en fait, ça se traduit comment?
Sur la partition, c'est comme une espèce de lame de fond. Bach, c'est un énorme génie de l'harmonie, et il sait jouer sur le clair-obscur avec des plages harmoniques qui sont dramatiques quand le texte est heureux. Notamment cet air qu'on vient d'entendre, Wie freudig ist mein Herz, ça veut dire mon cœur est joyeux. C'est l'aboutissement d'une énorme cantate doloriste qui parle de sang, mon cœur est plein de repentir et nage dans le sang. Ben finalement, c'est de la musique relativement joyeuse, mais qui reste très contenue et très intérieure. On n'est jamais vraiment sûr d'en être sorti, de se repentir avec Bach.
Vous dites qu'on va au-delà de la musique sacrée.
Ouais, c'est au-delà de la musique sacrée. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est justement de la sortir de l'église et d'en faire un exercice de style et un travail d'interprétation. Ouais.
Mais est-ce que la musique n'est pas toujours sacrée quand vous entendez ça, par exemple ?
I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should.
C'est vous, Sabine Devielle, qui vouliez entendre la voix de Chet Baker ce matin dans ce morceau de 1956, I Get Along Without You Very Well. Qu'est-ce que vous entendez dans sa voix?
Ah, Chet Baker, c'est pour moi, justement, on parlait de la voix qui chante comme un instrument et de l'instrument qui chante comme une voix. Chet Baker, trompettiste et chanteur, pour moi, c'est l'incarnation du phrasé de la trompette dans le chant et vice-versa.
Vous le chantez parfois?
Ouais, je le chante. J'ai fait pas mal de jazz quand j'étais jeune. Mais en fait, ce qui est formidable, vous savez qu'il a eu une vie un peu compliquée, Chet Baker, et il s'est fait tabasser par son dealer pour une histoire de dette quand il était... en fin de vie. Et finalement, ce qui l'a empêché de jouer de la trompette, sa fracture de la mâchoire, l'a obligé, l'a contraint à chanter. Et je trouve que c'est un rapport au chant comme dernier outil qui est formidable et qui est très inspirant. On entend dans ses inflexions, dans la façon dont il guide le son, qu'il est instrumentiste.
Quelles sont vos contraintes à vous, justement ?
Mes contraintes, alors je n'ai pas de dealer qui m'attend en bas de la maison de la radio.
C'est bien que c'était le fond de ma question, Sabine.
Ça, c'est plutôt pas mal de savoir ça. Mes contraintes, c'est d'être épanouie avec ce métier qui est un métier assez intense. Et mes contraintes, c'est d'être épanouie à la maison avec cette carrière qui va à 100 à l'heure. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis super heureuse.
Et dans le studio de Boomerang aussi, j'ai envie qu'on continue à chanter ensemble. Pour terminer cette émission, vous nous avez fait une surprise, Sabine Devielle. Une fusion, en fait, entre une chanson de la chanteuse Pomme, que les auditeurs et les auditrices de France Inter connaissent bien, avec un clin d'œil au Péléas et Mélisande de Debussy, s'est glissé dans le studio un grand violoncelle accompagné d'Antoine Touche, qui vous a arrangé tout ça. Dans le train, on vous écoute.
Jusqu'à ce que le soleil soit au fond de la mer, il descend lentement, alors c'est l'hiver qui commence. Le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés la sève épaisse et mon sang. Assassinés avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer.
Quel plaisir quand même et quelle chance. Sabine Devielle qui chante Pomme, les séquoias, Antoine Touche au violoncelle ce matin. Dans Boomerang exclusivement, merci tellement d'être venue ce matin Sabine. Je rappelle que votre disque Handelback avec l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon sort vendredi prochain. C'est d'une grande beauté. Je précise aussi que l'on vous retrouvera fin novembre dans le rôle de Morgana, dans la Alcina de Handel, encore lui, à l'Opéra de Paris notamment. Merci aussi à Clément Vuillet à la prise de son ce matin avec Nicolas Delmas. Il est quelle heure? 9h39, presque 40 sur France Inter. L'instant M, Sonia De Villers qui chante très bien, Sonia elle aussi.
Oui.
Vous n'allez pas faire pareil, j'espère.
Allez, Augustin, à demain.